RCF. Fils d'immigrés espagnols, alors pour être précis catalan, parce qu'il est espagnol de Barcelone, aujourd'hui stéphanois, très engagé dans l'église réformée de France sur la paroisse protestante de Saint-Étienne, je suis avec Antoine Caballé. Antoine Caballé, bonjour.
Bonjour.
Antoine Caballé, je viens de dire, donc vous êtes fils d'immigrés espagnols catalans, donc je sais que vous tenez à cette précision. C'est étonnant pour un catalan d'être réformé aujourd'hui. Bon, on attendrait plutôt que vous soyez dans la confession catholique.
Alors, mon père est réfugié après la guerre civile. Hein. Vous savez qu'il y avait une république en Espagne, de 36 à 39, un coup d'État franquiste, franco. Mmh. Une guerre civile où les républicains essayent de maintenir l'état de droit républicain. Et puis, Franco, qui est aidé par Mussolini et Hitler, alors que la France a prôné la non-intervention, va finir par gagner cette guerre. Donc les Catalans et les Espagnols, tous ceux qui sont républicains, beaucoup, ont été réfugiés. Mon père en faisait partie, mon grand-père aussi. Ma mère, qui était fiancée avec mon père à ce moment-là, reste dans son village, à côté de Barcelone, à Sant Joan d'Espí, pour s'occuper des affaires, parce que mon grand-père avait un magasin. Ils étaient fiancés depuis quelques années, et on dit promesse en catalan, promesse, ça veut dire promis. Et ils se sont mariés lorsque les frontières se sont ouvertes, en 1949. Voilà, en gros, c'est une histoire très, très, très difficile à raconter en quelques mots, sachant que moi, je suis né en 1952, à Saint-Étienne, et que mon père et ma mère étaient là, bien sûr, mon grand-père aussi. Ma grand-mère était décédée, mon grand-père vivait avec nous. Et j'ai parlé très tôt la langue catalane, c'est ma langue maternelle. J'ai appris le français et j'ai gardé cet amour pour toutes les langues.
Vous êtes bilingue ?
Je suis, on va dire, bilingue, oui, foncièrement. Et après, j'ai une femme qui est néerlandaise, hollandaise. J'ai également beaucoup aimé les langues. Donc, je travaille tous les jours...
Fondamentalement européen, finalement.
Voilà, six langues.
On en reparlera, ça. Parce
voilà, que c'est l'espagnol, le catalan, l'italien, ouais. Le français.
Je reviens simplement sur l'histoire d'amour de vos parents. Donc, si j'ai bien compris, ils sont fiancés avant que votre père quitte l'Espagne, donc avant 39. Et ils se marient en 49, si j'ai bien entendu.
Oui. Ah, oui.
10 ans de promesses tenues. Une belle histoire d'amour, ça, que vous ont finalement légué vos parents.
Oui, certainement, ça a dû me marquer très profondément. Et ça a dû nous marquer, nous étions 4 enfants. En tout cas, moi, ça m'a énormément marqué. Je suis très marqué par cet amour qui était très profond et qui, en même temps, nous a nourris. Alors, comment devient-on protestant, vous m'avez demandé. Eh bien, mon père, pendant la guerre civile, justement, reçoit une Bible. À ce moment-là, l'armée du salut était, après la guerre civile, pardon, pendant le séjour en France, prend une Bible à l'armée du salut et avec mon oncle qui était là avec lui, réfugié, puis des amis, ils lisent la Bible pour apprendre le français. Et en lisant la Bible, ils ont l'impression, alors qu'ils ont tout quitté, ils sont seuls, d'une présence. Et un jour, passant devant le temple protestant, il lit ces paroles qui sont sur le temple protestant de Saint-Étienne. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ils rentrent et à partir de là, ils vont aller régulièrement au culte et progressivement s'engager dans l'église protestante, tout en étant fondamentalement chrétien.
Mmh. Oui, Antoine Caballé, je vous pose la question, vous ne serez pas choqué. Votre père était donc républicain. Souvent, les républicains étaient plutôt athées, en tout cas, ou communistes. Les républicains n'étaient pas du côté de l'église, qui, elle, était du côté de Franco. Justement. Oui. Et alors, ça ne les a pas empêchés finalement de garder la foi, de votre père à garder cette foi?
Alors, non seulement garder, mais la redécouvrir. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, ils ont vécu quelque chose de très fort, une rencontre. Mon père, je pense, quand on l'entendait parler, tout le monde me le disait, on sentait qu'il parlait d'une vraie rencontre qui a eu lieu, dans une vraie conversion. Une vraie rencontre avec la personne du Christ. Et cette rencontre est liée aussi à la lecture de la Bible.
Voilà. Il s'est senti plus à l'aise dans l'église réformée, en tout cas avec des protestants, qu'il n'avait pu peut-être l'être du temps où il était encore en Catalogne, du coup, avec l'église catholique, non?
N'oublions pas qu'à l'époque encore, les messes étaient en latin.
Ah oui.
Et que les langues, c'est pas pour rien que j'ai parlé tout à l'heure des langues. Ouais. N'oublions pas la grande importance du Concile de Vatican II.
Alors ça, c'est plus tard.
C'est très important pour comprendre l'histoire. Aujourd'hui, par exemple, RCF existe parce qu'il y a eu ce chemin et que nous avons aujourd'hui clairement les mêmes références.
Antoine Cabellet, donc, vous êtes arrivé, vous êtes né en 52, élevé par vos parents. Donc, tous les deux, finalement, votre mère, quand elle est arrivée en France, elle a constaté la conversion de votre père et elle a adhéré aussi.
Alors, la différence peut-être était que ma mère était déjà engagée dans l'Église catholique. Elle faisait, entre autres, de la catéchèse, je crois.
En Espagne.
Mais c'est vrai que le fait de voir que mon père, qui était en Espagne, beaucoup plus distant, et qui est venu ici, elle a fréquenté aussi l'église protestante. Et lorsqu'ils ont été à la retraite, ils étaient également visiteurs dans les hôpitaux. Vous voyez, ils étaient partis avec des catholiques et des protestants unis d'une organisation qui était pour accompagner les malades dans les hôpitaux.
Il y a vous entendre, Antoine Cabellet, donc vos parents, anciens catholiques devenus protestants, restent finalement très écuméniques, n'ont pas fermé leurs oreilles pour les autres églises, en tout cas en particulier pour l'Église catholique.
Alors je pense que ça, c'est le grand message de notre temps pour l'Europe, je pense, et pour eux. Parce qu'en gros, on voit les églises se dépeupler, et pourtant, il y a un chemin qui se fait dans l'unité, ce que vous appelez l'écuménisme, ça veut dire la maison habitée. C'est pas une nouvelle institution, c'est simplement le fait de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'un seul baptême, qu'une seule foi, et un seul repère. Et c'est pour ça que Vatican II, qui est avec le retour à la lecture de la Bible, vraiment dans les cérémonies en langue vernaculaire et puis les prédications, etc., a joué un rôle très important pour signifier cette unité.
Et j'aimerais maintenant qu'on vous écoute, Antoine Cabellet, on va le découvrir au long de cette émission. Vous êtes, vous aimez beaucoup de choses, vous aimez la Bible, vous aimez chanter, vous aimez, vous composez des chansons, on écoute La Colombe.
Je suis dans la classe avec les enfants, comme le temps passe paresseusement, derrière la fenêtre, un petit point blanc, sur le réverbère bleu se pose justement. Colombe, le monde n'est-il pas trop grand pour qu'une colombe se pose justement là? Colombe, le monde est pourtant bien grand, toi gentille colombe, tu viens justement là. Nous tous dans la classe, nous te regardons, tu restes à ta place, nous vient un frisson. Tu parles en silence et nous t'écoutons, ton regard est dense comme une chanson. Colombe, le monde est pourtant bien grand, toi gentille colombe, tu viens justement là. Colombe, le monde n'est-il pas trop grand pour qu'une colombe se pose justement là.
Témoin, quand la foi se raconte.
Nous sommes toujours avec Antoine Cabellet, engagé dans l'église protestante ici à Saint-Étienne. On l'a vu, d'origine catalane et d'origine catholique aussi, mais fervent partisan de l'unité des chrétiens. Vous avez vraiment exprimé votre foi œcuménique. Et on vient d'entendre cette chanson La Colombe. Vous composez depuis longtemps, vous chantez depuis longtemps.
C'est très étrange en fait. Ma sœur jouait de la guitare classique. Moi, je jouais au football, comme beaucoup de gens à Saint-Étienne. Quand ma sœur n'était pas là, je lui prenais sa guitare et je composais comme ça spontanément, sans connaître aucune note de musique. Alors ce qui est étrange aussi, c'est que c'était une guitare de droitier, que je suis gaucher, et que j'ai donc appris à jouer tout seul avec une guitare de droitier alors que je suis gaucher, et que donc j'ai tout mis en place, une technique personnelle.
Et quand est-ce que vous avez commencé à oser à proposer vos chansons, à les faire entendre ?
Ce que je sais pas, mon père avait un magnétophone, donc mes amis, souvent un cousin d'ailleurs d'Espagne, on composait comme ça des chansons. Je me souviens d'une des premières qui disait « Dis-moi pourquoi les hommes se font la guerre », d'ailleurs que je chante toujours et que j'ai composé à 14 ans, très simplement.
Alors cette colombe, qu'est-ce qu'elle raconte ?
Alors ça, c'est dans la classe que ça se passe. Je suis devenu instituteur.
On va y revenir, oui.
Donc je suis dans ma classe et... où il y a une colombe qui passe et on la regarde un petit moment. Et puis cette colombe s'en va. Alors j'ai fait beaucoup de chansons comme ça, sur l'arc-en-ciel aussi, sur un papillon. C'était la manière de dire aux enfants, regardons autour de nous, il y a une présence quand même. Je ne signifiais pas, puisque nous étions dans l'école laïque, ouvertement mes origines chrétiennes. N'empêche que elle se pressentait, je crois que les enfants le sentaient, et que voilà, j'ai pu ainsi peut-être faire passer des témoignages de paix et de fraternité entre tous, sachant que je travaillais dans des écoles où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigrés.
La paix à laquelle vous êtes beaucoup attaché. Antoine Cabellet, on a grillé un peu les étapes dans votre enfance, bien sûr, à Saint-Étienne, puisque vous êtes né à Saint-Étienne, élevé à Saint-Étienne, dans une école, je suppose, d'ailleurs laïque.
Oui, oui, bien sûr.
Et puis, envie d'être vous-même, faire partager votre savoir, d'enseigner. Vous faites l'école normale et l'appel à l'armée et vous refusez. Comment ça se passe? Parce que mon souvenir, difficile d'être objecteur de conscience lorsqu'on est candidat instituteur.
Oui, alors c'était très, très étonnant, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire autrement. J'avais entendu parler tout petit.
C'était impossible pour vous de faire le service militaire?
C'est impossible pour moi, oui, parce que...
De par votre conviction chrétienne?
C'est certainement, bien sûr, du fait, c'est pas seulement une conviction chrétienne, c'est vraiment
humaine, fondamentale.
Une présence qui m'habite et qui me disait non, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Alors j'ai été objecteur de conscience, c'est vrai que pour un enseignant, un enseignant dans le cadre laïque, c'est pas simple, mais j'ai pu quand même le faire. Et grâce à l'appui quand même aussi, il faut le reconnaître, du syndicat qui m'a dit « ne crains rien, on sera avec toi ». Et j'aimais beaucoup mon métier, c'était une vocation. Et je voulais, évidemment, c'était pas facile pour moi de choisir à ce moment-là l'objection de conscience. Donc j'ai fait 2 années, la première année à l'Office national des forêts, à Saillant.
C'était le cas à l'époque, oui.
Et comme le hasard n'existe pas, je suis tombé dans une famille protestante qui m'a accueilli. Et puis la deuxième année au cinéma Le France, où j'ai travaillé
à Saint-Étienne,
avec Monsieur Picon entre autres, essentiellement sur les films pour enfants. Ouais. Et du coup, j'animais les entr'actes avec des histoires.
Une salle d'art et d'essai où justement le cinéma pour enfants était promu, vanté. Je sais quelque chose, mes enfants en ont profité. Antoine Cabellet, donc enseignant, instituteur, objecteur de conscience, bon, on l'a vu. Et puis finalement, très, très engagé déjà dans l'église protestante de Saint-Étienne.
Très tôt engagé, mais c'est pas vraiment, si vous voulez, c'est plus un engagement, oui, dans l'église en général, puisque j'ai participé à la catéchèse œcuménique à Saint-Étienne, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui avait un caractère très, très singulier, très profond.
On précise que c'est la catéchèse œcuménique.
C'est une catéchèse qui accueillait tous les enfants de
protestants ou catholiques,
et même d'autres confessions chrétiennes, et qui laissait le choix de garder bien sûr son église. Donc c'était à mon avis très 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 prophétique. Donc j'ai travaillé avec Daniel Chanal et puis Eliette Beltracchini Boudoya, et c'était vraiment, il m'appelait surtout pour les moments de célébration, pour chanter éventuellement.
Bien sûr, tout en étant enseignant dans une école publique et très attaché, je crois, à la laïcité.
Alors la laïcité pour moi m'a effectivement fait beaucoup réfléchir.
On en parle beaucoup aujourd'hui, mais vous avez une vision peut-être moins clivante de ce mot.
Disons que pour moi, la laïcité, ce n'est rien d'autre que la séparation des instances. Mais ce n'est pas la coupure de l'homme en deux. Et c'est pour ça que j'ai fait une thèse qui s'appelle « Bible et éducation, une autre pédagogie ». Et une thèse de doctorat, mais que j'ai terminée en fin de carrière, qui a été bien admise, qu'on peut d'ailleurs consulter sur Internet. Et cette thèse, je l'ai faite dans le cadre laïque, pour essayer de montrer tout ce que nous devions effectivement à notre culture judéo-chrétienne mais biblique dans nos valeurs. La fraternité, par exemple, je prends cet exemple. Alors la laïcité, oui, à condition qu'elle ne se pose pas comme une religion. La laïcité, oui, à condition qu'elle soit une séparation. Elle est même indispensable. Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Autrement dit, il est véritablement laïque au sens où nous l'entendons vraiment. Mais cette laïcité, pour moi, surtout dans le cadre éducationnel et dans le cadre public, suppose d'être ce que nous sommes. C'est pas parce que nous sommes dans un état laïque qu'il faut renoncer à dire ce que nous croyons, et pour qu'il y ait des vrais échanges. Par contre, il faut écouter dans le respect et dans vraiment l'attention profonde et dans la fraternité aussi, celui qui pense autrement ou qui a d'autres convictions.
Antoine Cabellet, une thèse Bible et éducation présentée dans une faculté protestante?
Non, dans la faculté, l'université Lyon 2.
Ah, vraiment dans un cadre très laïque.
Très laïque. Et donc, il y avait dans le groupe des membres de mon jury des gens de toutes catégories. Il y avait effectivement des gens chrétiens, mais il y avait aussi des gens qui ne l'étaient pas, qui étaient engagés dans d'autres.
Et donc, une thèse qui a été acceptée?
non seulement acceptée.
Est-ce qu'elle le serait aujourd'hui?
Je pense qu'aujourd'hui, alors je vais peut-être vous surprendre, elle me poserait beaucoup moins de problèmes qu'à l'époque. Moi, je l'ai tenue. On me conseillait de pas trop, parce que dans cette thèse, effectivement, de pas trop dire que j'étais chrétien. Or, dans cette thèse, je le dis. Parce que pour moi, ça fait partie du vrai dialogue. Et ça a été tout mon combat. Quand je vous parle d'une laïcité où chaque personne est unique, irremplaçable, et doit être ce qu'elle est. Par contre, elle est tenue d'accepter l'autre tel qu'il est. On ne peut ne pas être d'accord, on peut en discuter. Il est même nécessaire d'en discuter. Mais il ne faut pas vouloir absolument mettre hors du cadre, et c'est un peu peut-être l'erreur de la laïcité trop étroite parfois, c'est de mettre hors cadre tout ce qui est conviction. Et du coup, contrairement à ce qu'on croit, ça exacerbe certains intégrismes. Alors que la laïcité bien comprise, où un enfant juif, un enfant musulman, un enfant chrétien, un enfant athée peuvent discuter ensemble, ce serait formidable.
Antoine Cabalet, je propose un petit temps de respiration, on va aller cueillir une rose.
Rose, rose, qui te date la couleur? Il viu esclat, la sentor de meravella i la frescor de punzella. Tot ho havem rebut de Déu, tu tampoc no tens res teu. Ni la força, ni la vida, ni la veu que prego crida, ni aquest vers que neix al sol, ni la joia, ni el consol. Tot pertany al rei senyor que governa tota cima. Lluem, doncs, el Creador, tu li dus la teva rima. Jo li portaré l'olor, jo li portaré l'olor.
Témoin, Louis-Marie Lacroix.
Rosa, une chanson de mon invité Antoine Cabalet. Rosa, alors qu'est-ce que c'est que cette rose? Elle est chantée en catalan, on l'aura peut-être compris. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette
alors,
chanson?
Alors d'abord, signifie...
Une chanson que vous avez écrite.
Non. Mon père a écrit... Attendez, là, la musique, oui, c'est moi. Mais cette chanson catalane a été écrite, les paroles ont été écrites par mon père.
Reviens à votre père.
Alors mon père a écrit ses paroles et j'ai mis en musique. Alors qu'est-ce qu'elle dit? En gros, c'est...
Il a écrit ses paroles à quelle occasion?
Il a écrit, je ne sais pas, alors là je ne sais pas, je sais qu'il a écrit parmi d'autres poèmes, il écrivait D'accord. beaucoup, c'est ce qui m'a donné envie aussi de faire des chansons. Ma mère les lisait, ses poèmes, peut-être l'a-t-il destiné à ma mère. Il dit, Rose, mais qui t'a donné ce parfum et cet éclat? Et cette beauté? Et c'est un dialogue, hein. Et la Rose répond, mais je n'ai rien eu de moi-même, nous avons tout reçu de Dieu. Et toi non plus, ce verre... Et moi aussi, finalement, cette musique, tu l'as reçue de lui. Rendons grâce au Seigneur qui a fait toutes ces choses. Voilà. Et donc, si ça finit comme ça, nous louons le Seigneur. Alors, c'est intéressant parce que c'est ce que j'ai appris véritablement de mes parents, qui m'a accompagné toute ma vie. Et c'est lié pour moi à la foi chrétienne. La gloire revient au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Mais ce n'est pas à nous. Et nous sommes les serviteurs, des serviteurs. Et la gloire, nous sommes glorifiés par la gloire du Père. Mais nous n'avons pas en nous à nous glorifier spécialement. Nous sommes des serviteurs, chacun ayant le même prix, la même valeur, puisque Dieu a donné sa propre vie pour nous sauver.
Antoine Cabalet, je crois savoir, vous êtes aussi dans l'Église réformée, les prédicateurs peuvent être des laïcs, et vous êtes prédicateur. C'est ce qui vous arrive des fois d'essayer de faire partager au culte?
Oui, je suis prédicateur laïque, ce qu'on appelle un prédicateur laïque. J'étais longtemps membre du conseil presbytéral, même régional.
Très engagé dans la paroisse protestante de Saint-Étienne.
Oui, engagé, oui. Il m'arrive de présider des cultes et surtout aussi de chanter par des chants, parce que je compose beaucoup de chants. Bon, je les compose certains sont chantés comme ça. Je les chante souvent seul, parce que j'ai parlé tout à l'heure de cette façon d'avoir appris la musique par moi-même. Et c'est vrai que j'ai toujours, dans le chant que vous avez entendu, je suis seul avec ma guitare. Je pense que j'ai du mal parfois à chanter avec d'autres, tout simplement parce que c'est un chemin. Vous voyez,
ça sort de vos tripes, si je puis dire.
Je ne sais pas, c'est très curieux. Parce
c'est
que
plus profond de vous-même, en tout cas.
Je ne sais pas, ça vient peut-être d'ailleurs aussi.
Oui.
Mais je sais que, en tout cas, mon cheminement vers la thèse a commencé par un travail sur ce qu'on appelle l'autodidaxie. Et j'essayais de montrer dans ce travail que l'autodidaxie, autodidacte donc, qu'on écrit souvent avec un X, mais que j'avais écrit C-T-I-E, pour montrer que c'était pas seulement apprendre par soi-même, mais que ce qu'on sait vraiment, c'est ce que nous avons appris, dont on avait appris à la fois les finalités, dont on, c'est pas seulement un savoir qu'on sait par cœur, par exemple. C'est véritablement quelque chose qui est vécu. Et donc, c'est à partir de là que j'ai été conduit à l'action éducative, et à l'action éducative de la Bible, et puis finalement à cette thèse. Mmh. Et alors, il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont marqué, mais je pense entre autres à Maurice Blondel, un auteur catholique, qui a écrit l'action et la pensée, et qui explique très clairement dans ses livres, qui sont parfois difficiles à lire, mais qu'il explique très clairement que on ne peut pas contenir la foi dans les concepts, dans les idées. Mais dans un vécu, elle se rencontre. Autrement dit, Dieu est le tout autre. On ne peut pas le contenir dans nos concepts, mais il vient vers nous par amour et nous invite à nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés.
Et l'action qui vous a conduit justement à refuser certaines actions que vous ne pouvez pas entreprendre, c'est-à-dire tenir des armes, vous êtes objecteur de conscience, vous êtes battu aussi pour la paix, je crois, et vous avez même emmené votre classe, ou en tout cas dans le cadre de votre enseignement d'instituteur, vous avez été allé au Liban. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu moi, ce qui s'est passé exactement ?
Alors, c'est pas tout à fait ça. Je ne suis pas allé au Liban.
Ah bon ?
J'étais en contact avec le Liban. Autrement dit, nous étions... ma classe, j'avais un ami libanais qui avait quitté justement pour des raisons extraordinairement pacifistes la guerre. Il était chrétien. Et un jour, on lui demande dans son école d'écrire le sigle de sa famille d'appartenance. Il était maronite, bon, il n'avait pas envie de rentrer en conflit. Donc il s'est caché dans la voûte d'un bateau et il est arrivé en France. On s'est rencontrés à la communauté de Pomerol, qui m'a beaucoup marqué. Et là, il est venu vivre en France. Et puis ensuite, il a reçu la visite de certains membres de sa famille. Et à cette occasion, ces membres sont venus visiter ma classe. Et ils nous ont parlé de la guerre. Et une de ces dames, une dame, travaillait à la télévision libanaise. Et elle m'a dit, ben écoute, envoie-nous les cassettes des chansons que vous faites. Alors on a fait des chansons pour eux. Et on a écrit des chansons.
Elles ont été diffusées à la télé libanaise.
Alors paraît-il que la nuit de Noël, alors je n'ai pas su, jamais eu de confirmation, c'était des cassettes très modestes. Il paraît qu'ils ont, pendant un moment, ils ont écouté un peu ces messages de fait, chantés par des enfants, donc il faut bien voir, de l'immigration, du quartier de Montchauvet, de toute nationalité, nord-africain, algérien, marocain. Et donc ce sont eux qui parlaient et qui chantaient pour la paix des chansons qui, semble-t-il, sont passées. Mais en tout cas, voilà, elles ont été envoyées au Liban. Et on m'a dit qu'elles sont passées, mais je n'ai jamais pu vérifier. On est dans une autre époque où il n'y avait pas toutes les manières de pouvoir contrôler qu'on a aujourd'hui.
Ça vous ressemble, ça, Antoine Cabalet, de cette action-là, qui est une action pacifiste, finalement.
Oui, c'était pour la paix. Hein. Et voilà, qui appelait les enfants du monde à faire la paix, et à s'aimer sans frontières. Voilà, c'est un peu ce que j'ai appris. Vous voyez, à travers, finalement, l'originalité de la singularité catalane, sans la renier, j'ai appris à aimer tous les peuples. Et je crois qu'il ne faut pas renier ses racines, mais c'est au contraire en creusant dans ses racines qu'on apprendra à aimer les racines des autres et au fond s'apercevoir qu'il y a dans chaque culture, dans chaque langue, des richesses magnifiques.
Parce que vous parlez français, vous parlez catalan, vous n'avez pas perdu l'amour finalement de vos origines. Vous avez encore votre cœur en Catalogne ?
J'ai mon cœur en Catalogne, mais je vais pouvoir vous dire que je l'ai un peu partout. J'ai adopté des enfants. L'un est d'origine nord-africaine, l'autre malgache. Vous savez, moi, non. Bien sûr, c'est parce que j'aime mes parents que je peux aimer tous les hommes. C'est parce que j'aime mes frères et sœurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous dit, on appelle Dieu le Père. Mais c'est parce qu'on comprend qu'on peut l'aimer parce qu'on aime nos parents. De la même façon, on aime la Catalogne. Et parce qu'on aime la Catalogne, on aime tous les peuples. Ce n'est pas à l'exclusion des autres. C'est pour ça que je crois que le temps est venu de faire la paix entre tous les peuples, non pas en excluant les autres, mais en les incluant. N'oublions pas que la Pentecôte, vous savez, le moment de la naissance de l'Église, ce sont toutes les langues qui louent le Seigneur. Mmh. On a évoqué tout à l'heure Vatican II. C'est ça la grande nouveauté, richesse de Vatican II. C'est que toutes les langues se mettent à dire dans le même esprit la louange de Dieu dans l'Église catholique. Et ça a permis le dialogue et la communion avec toutes les autres églises chrétiennes.
C'est bien que vous parliez de Vatican II, puisqu'on fête cette année les 60 ans de Vatican II, enfin du commencement de Vatican II. Mais je reviens sur cet amour des langues, sur ce souci de la paix. Je sais que vous avez été très touché, très meurtri par ce qui se passe actuellement en Europe. Et d'une façon générale, vous êtes... Tous les conflits vous rendent presque malade, j'ose le dire. Parce que moi, je vous ai vu dans un état un peu... pas bien en apprenant par exemple ce qui se passait en Ukraine.
Oui, parce que c'est vrai que quand étant tout petit, j'entendais les horreurs d'ailleurs qui étaient dites avec beaucoup d'humanité, hein, et d'ailleurs beaucoup de non-dits aussi, on sentait un grand amour dans la famille, dans les amis proches, mais j'ai compris que la guerre, très tôt, c'était terrible. Et que donc, je crois que le temps est venu pour tous les peuples, pour chacun d'entre nous, d'essayer de prier déjà pour la paix. Déjà, osons prier. Hein. C'est sûr qu'en priant, Dieu nous entend et qu'il peut faire des choses que nous ne pouvons pas imaginer, mais qui peuvent arriver. Et la paix, par la paix, vraiment par la paix, non pas pour prendre le pouvoir, mais pour devenir vraiment fraternels les uns avec les autres. Voilà, donc je suis très touché par ça, oui, effectivement.
Il faut que votre espérance soit quand même forte, parce que c'est difficile aujourd'hui de garder cette espérance dans la paix.
En même temps, je me dis, Dieu est un Dieu d'amour. Il a écrit, vous savez, quand vous lisez le prophète Ésaïe, ils détruiront leurs armes de guerre plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Ils en feront des instruments d'agriculture, des socs de charrues, etc. On a en partie la réponse aux problèmes écologiques et aux problèmes humanitaires. Autrement dit, si on faisait fleurir les déserts au lieu de fabriquer des armes de guerre, si on se décidait de faire de notre terre un jardin, comme il l'était au commencement, nous dit-on, dans la Bible. Si on décidait, nous, d'essayer de faire. Alors bien sûr, vous me dites, vous rêvez. Ben, je ne crois pas. Je crois que Dieu est un Dieu d'amour. Et je pense que si ça n'est pas aujourd'hui, c'est parce qu'on ne sait pas peut-être lui demander. Osons lui demander déjà dans la prière et après, travaillons, prions pour qu'il règne.
Ça me fait penser à la chanson dont on a entendu tout à l'heure, la colombe, cette colombe de la paix finalement. Hein. Oui, on l'a pas dit, mais c'est une colombe de la paix.
Alors cette colombe qui passait, oui, effectivement, j'ai souvent été, voyez, qui ne s'arrête pas, vous avez remarqué, c'est comme un arc-en-ciel d'ailleurs. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, le signe de l'Alliance, il apparaît et il disparaît. On ne peut pas lui dire, viens là maintenant.
Merci beaucoup Antoine Cabalet. Je propose, pour terminer cette émission, qu'on passe la fin de cette chanson qu'on n'a pas entendue en entier tout à l'heure.
Je suis dans la classe avec les enfants. Comme le temps passe paresseusement, derrière la fenêtre, un petit point blanc sur le réverbère bleu se pose justement. Colombe, le monde n'est-il pas trop grand pour qu'une colombe se pose justement là? Colombe, le monde est pourtant bien grand. Toi, gentille colombe, tu viens justement là. Nous tous dans la classe, nous te regardons. Tu restes à ta place, nous vient un frisson. Tu parles en silence et nous t'écoutons. Ton regard est dense comme une chanson. Colombe, le monde est pourtant bien grand. Toi, gentille colombe, tu viens justement là. Colombe, le monde n'est-il pas trop grand pour qu'une colombe se pose justement là? Et puis tu t'envoles et tu disparais. Derrière notre école, vers les noirs crassiers, nous dans nos mémoires, nous voulons garder cette simple histoire qui veut dire aimer. Colombe, le monde n'est-il pas trop grand pour qu'une colombe se pose justement là? Colombe, le monde est pourtant bien grand. Toi, gentille colombe, tu viens justement là.